Donc ce soir, nous allons parler des quatre vérités nobles. Et ce sont des vérités. Ce sont des vérités. Ça veut dire que elles font partie de la structure même du monde. Le monde visible est souffrance, c'est la première vérité. Il n'est pas seulement souffrance, mais il est aussi souffrance. La deuxième vérité, il y a une cause à la souffrance, c'est que nous n'arrivons pas à accepter la souffrance. Il y a un déni, donc le désir émerge pour autre chose. Et la troisième vérité, c'est qu'il y a une fin à la souffrance. La libération est possible. Il y a un autre monde possible que ce monde appelé samsara. Et la quatrième vérité, c'est le chemin. Et d'une manière ou d'une autre, tous les grands mystiques ont montré par l'image ou par leurs écrits cette réalité d'un autre monde. Le Christ, en mourant sur la croix, s'est abandonné à la souffrance du monde conditionné. Et l'image, c'est qu'il y a eu cette résurrection, qui est cette appartenance à un autre possible. C'est un poème, un poète soufi qui dit, j'aime beaucoup cette parole, je désire ne point désirer, car je suis le désiré et tu es celui qui désire. L'homme peut se laisser désirer par cet autre monde. Et quand l'homme se laisse désirer par l'univers, il est libre du désir propre dans le monde conditionné, parce qu'il est totalement nourri par ce laisser-faire ou par cet abandon. Donc la première vérité, il y a souffrance, c'est quelque chose que nous devons entendre d'abord, mais après comprendre, c'est-à-dire expérimenter dans nos corps et dans nos esprits. Et puis avoir compris. Lorsque nous avons compris, il n'y a plus ce conflit perpétuel entre ce que je suis ou ce qui est et ce que j'aimerais, entre l'être et le devenir. Et c'est essentiel de sentir ça en nous-mêmes parce que ce qui crée le problème dans nos vies, c'est ce déni de la souffrance. Et on peut voir la souffrance de différentes manières. La première, c'est cette réalité de, ou cette vérité plutôt, que le monde est dualité. Le monde, par définition, est deux. Il est plusieurs, mais il est deux. Il y a le yin et le yang, il y a le jour et la nuit, il y a moi et toi. Il y a le ciel et la terre. Nous vivons dans le monde du deux. Il y a l'amour et la haine. Il y a la confiance et le doute. Il y a la détente et la douleur, la tension. Et le fait que ce monde soit dualité cause juste ça cause une forme de souffrance. On pourrait dire que c'est la souffrance du manque, parce que intuitivement, nous sentons que nous appartenons aussi à quelque chose de plus unifié, de plus simple, de plus bénéfique et bienfaisant, à quelque chose qu'on peut appeler le un. Ou que vous pouvez appeler comme vous voulez. En général, en tout cas chez les soufis, j'aime bien parce que on ne peut pas l'appeler. C'est celui qui n'a pas de nom. Il y a d'autres formes de souffrance. Il y a la douleur physique ou la douleur psychique. J'ai mal. Dans notre vie ou dans une retraite, c'est quelque chose que nous pouvons expérimenter. J'ai ce que je ne désire pas. Et dans notre vie, cette souffrance-là existe lorsque je suis avec ceux qui me blessent, avec lesquels je ne souhaite pas être au niveau interrelationnel. Ça fait mal. Ou lorsque je suis avec une situation ou des conditions qui sont particulièrement douloureuses, physiquement ou psychiquement. Et l'autre aspect, c'est que nous essayons de conserver, d'obtenir ce que nous désirons, ce que nous aimons, ce qui serait synonyme de plénitude. Et c'est une souffrance parce que les choses changent. Nous ne pouvons pas tenir le bonheur. Et nous ne pouvons pas vouloir le bonheur. Si je veux le bonheur, par définition, je ne le suis pas. Je crée la dualité ici et maintenant. Ce deuxième aspect, c'est aussi ne pas savoir ce que nous voulons, ne pas savoir ce que je désire, être dans cette forme de dualité, de l'hésitation. Et dans une retraite, ces douleurs sont très visibles. Nous pouvons sentir comment il y a l'attente. Nous sommes dans l'attente, rien que ce sens du temps. J'attends. J'attends quoi ? Je suis là. Dans nos vies, nous avons plein d'attentes, des attentes interrelationnelles, des attentes professionnelles, des attentes par rapport à nous-mêmes. Nous sommes beaucoup d'attentes par rapport à nous-mêmes. Et dans une retraite, nous avons une attente pour certains états. Nous cherchons certains états. Nous cherchons l'éveil. Et alors, il y a des déceptions parce qu'il y a des états que nous ne souhaitons pas, nous avons envie d'être ailleurs, autrement. Il y a l'impatience, il y a la souffrance des pensées, des doutes, des révoltes. Les autres qui nous exaspèrent, les horaires qui sont trop fixes ou pas assez, les douleurs du corps. Et à l'extérieur, dans nos vies, tout ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas là, mais c'est camouflé. Nous camouflons sans cesse. Le Bouddha a parlé de la première vérité comme de la douleur liée à la naissance, à la vieillesse, à la maladie et à la mort. C'est le premier aspect. C'est cette impermanence du corps. Par définition, c'est Ajahn Sumedho, une fois quelqu'un se plaignait, une femme se plaignait qu'elle était malade, très malade. Et puis, elle disait, mais j'ai tout bien fait dans ma vie, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait de mal, mais comment j'aurais pu faire autrement? Et puis Ajahn Sumedho lui a dit, pourquoi vous êtes malade? Mais parce que vous êtes né. Lorsque nous naissons, il y a un potentiel de maladie et de vieillesse qui fait juste partie de la naissance. Et l'autre aspect, c'est donc ne pas avoir ce que je désire ou ce que je désire. Je voudrais être avec cette personne ou avoir ce ou ce que je ne désire pas. Et dans nos vies, nous mettons tout en place pour ne pas souffrir. Nous tenons la vieillesse à distance. Nous faisons des assurances pour tout. Nous avons peur, une terrible peur de perdre. Alors peut-être que en Suisse, pour le moment, on arrive plus ou moins à nous protéger un peu. Mais regardez ce qui se passe en Grèce ou en Espagne. Ça bascule vite. Reconnaître cette impermanence, c'est se lier à cette première vérité de cette dualité entre bonheur et peine. D'une certaine manière, on pourrait dire, et on touche maintenant tranquillement à la deuxième vérité, c'est que la peur de perdre, c'est ce qui cause notre perte. C'est encore à John Sumedo qui dit, je ne sais pas pourquoi on a peur de mourir, de toute façon on est déjà mort de peur de mourir. Donc cette défense, cette protection que nous mettons en place par rapport à ce potentiel de souffrance, il est toujours basé sur le camouflage et nous camouflons en mettant en place une dose massive de jouissance, de pouvoir, de possession et de puissance. Au détriment des autres. C'est un sens du moi qui prend sa place d'une manière surfaite. Quelquefois, je me dis, souvent, je me dis, si je souffrais autant pour les enfants qui meurent de faim au Soudan ou Dieu sait où que je souffrirais si c'était mes petits-enfants, le monde irait drôlement mieux. Il irait drôlement mieux. On n'aurait plus nos 300 mètres carrés, nos deux bagnoles, nos... Bref, sans commentaire. C'est chouchou parce que c'est la vulnérabilité de la nature humaine. Il n'y a que le pardon et la compassion à amener là. C'est l'état de conscience de la création aujourd'hui. Donc la première vérité... Le monde conditionné n'est pas parfait. Notre monde visible n'est pas parfait. Et la deuxième vérité, je souffre parce que je le veux parfait. L'origine de la souffrance, dit le Bouddha, c'est le désir et la soif. Je veux ça et je ne veux pas ça. Et j'y crois. Je crois à mes désirs. Je crois que l'assouvissement de mes désirs, c'est la fin de la souffrance. Je crois que si je m'attache à mes possessions, à mon corps, à mes opinions, à ma réussite, à ma famille, mes amis, si je les croche du mieux que je peux, ce sera la fin de la souffrance. Ben ça, c'est l'ignorance. Nous cherchons au mauvais endroit. Nous cherchons au mauvais endroit parce que si avoir plus, c'est le bonheur, en fait, je crée mon malheur. Et nous pouvons le voir au niveau de la société aujourd'hui. Parce que la société, elle est exactement dans ce mouvement-là, l'avidité comme définition, la fuite en avant au niveau de la médecine, au niveau de la technologie, au niveau des loisirs, au niveau des voyages, au niveau de l'informatique. La société de consommation est dans une ignorance crasse. « Donc nous commençons peut-être à entendre et à comprendre que avoir les choses comme je le veux et croire qu'avoir les choses comme je le veux, c'est le bonheur, c'est le meilleur moyen de créer mon malheur. Parce qu'il y a cet attachement à mes désirs, cet attachement à moi, qui fait que l'amour est un amour de moi à travers l'autre. Ce que je veux de l'autre, c'est le ressenti de l'amour en moi. C'est ok, mais nous pouvons commencer à questionner, à voir. Il n'y a pas d'erreur. Mais il y a un engagement progressif dans ce lâcher prise de l'ignorance. C'est un gros travail parce que au fond, cette ignorance est à la même profondeur que notre nature essentielle, que notre nature de Bouddha. Donc c'est le travail d'une vie. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est de nourrir tranquillement et régulièrement ce potentiel qui est là. Le désir d'avoir va avec la peur de perdre. Je désire avoir et en même temps j'ai peur de perdre. C'est toujours ensemble. Le Bouddha a parlé de ces trois aspects de l'attachement ou du désir. Disons que ce n'est pas vraiment le désir en soi qui est le problème, c'est que c'est un mouvement inconscient. Il y a l'attachement au désir. La soif n'est pas reconnue, elle est prise pour vraie, c'est l'ignorance le problème. Le Bouddha a parlé de ces trois aspects d'abord. Ce qu'on appelle les huit attachements mondains, dont on a un peu parlé. L'attachement au plaisir est le rejet de la peine. Nous aimons le plaisir, nous pouvons sentir dans une retraite cet attrait pour le plaisir, rien que la nourriture. Si on me prive de nourriture dans une retraite, c'est terrible. Je me souviens d'une retraite, il y avait du dessert que j'adorais, c'était du upma. Si vous êtes allé en Inde et que vous avez goûté au upma, c'est un attachement terrible. Et puis voilà qu'il y avait un beau dessert de upma, mais il y avait c'était une retraite avec beaucoup, beaucoup de monde. Puis j'étais dans la file, puis je voyais la quantité qui descendait. Puis voilà qu'une dame, deux places avant moi, elle se sert mais trois cuillères énormes. Et puis il n'y en avait plus pour moi. Quelle souffrance. Et après, le pire, c'est que je l'ai vu ficher loin la moitié de son dessert à la poubelle. C'était très dur. Donc l'attachement au plaisir, que ce soit le plaisir des sens, que ce soit le plaisir interrelationnel, on aime discuter avec l'autre, se faire un peu sentir comme on est les deux d'accord, les mêmes opinions. Et tout d'un coup, voilà qu'on n'a pas les mêmes opinions. L'autre n'est pas d'accord. Il nous met à l'étroit. Waouh ! Dur ! Nous avons des attentes par rapport à l'autre. Et le Bouddha a parlé plus particulièrement de ces trois aspects du monde que sont la réussite et l'échec. Combien la réussite est valorisée dans notre monde, combien nous nous mettons de stress, d'exigence pour courir après la réussite. Et dans une retraite, on peut voir qu'on fait un peu la même chose. Nous nous comparons, nous nous jugeons, nous essayons. Cette réussite peut nous mettre vraiment dans des situations douloureuses. Parce que quand j'ai l'impression de réussir, tout va bien. Mais ce qui va avec la réussite, c'est l'échec. Et si je crois que waouh, là j'ai vraiment réussi, eh ben je vais être vérifiée un peu plus tard pour voir si j'ai vraiment l'équanimité, et puis je vais me sentir en échec. L'échec, il peut être professionnel, affectif, familial dans nos vies. L'image de nous-mêmes. Et la société véhicule une image de ce qui devrait être réussite, qui fait que ça demande un travail pour pouvoir se trouver soi-même tel que nous sommes. La solitude. Pourquoi est-ce que la solitude cause un tel problème? Parce qu'on a l'image du petit couple parfait avec ses petits enfants. Non. Moi, quand je vois les couples parfaits, ils viennent avec leurs problèmes. Puis quand je vois les gens seuls, ils viennent avec leurs problèmes. Nous avons toujours l'impression que l'herbe est plus verte dans le champ d'à côté. Le gain et la perte. Le gain et la perte, c'est intéressant. Parce que même si nous avons largement assez, nous aimons mieux gagner. Même si il n'y a aucun problème à ce qu'on perde 200 francs, on est vraiment triste quand on perd 200 francs. C'est intéressant. Avoir, c'est lié à cet avoir, ce besoin d'avoir. Et de nouveau, l'image est importante. La comparaison est importante. Le bien-être n'est pas lié à combien nous avons, mais à la différence qu'il y a entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui ont peu. Le sentiment de misère est très fort quand il y a des gens très riches juste à côté. Mais le sentiment de misère n'est pas fort du tout quand tout le monde est au même niveau. Dans une retraite, le gain et la perte, nous sommes protégés, relativement protégés. Mais enfin quand même, si quelqu'un était assis à votre place, ma place, et puis le dernier aspect, c'est la louange et le blâme. Être libre de la louange et du blâme. Nous sommes dépendants lorsque nous n'avons pas une assise, un ancrage. Et l'autre peut nous mener en enfer et au paradis. Être libre de la critique et de la louange, c'est pas seulement de la critique et de la louange, mais de la réussite et de l'échec, du gain et de la perte. C'est ce qui se développe lorsque nous pratiquons l'équanimité. Parce que je pratique l'équanimité ici et maintenant, que j'apprends à recevoir toutes les énergies dans l'instant, pas seulement celles que j'aime, que j'apprécie. Il y a une libération progressive qui se fait. Et nous savons très bien que les choses changent, qu'elles sont subjectives, que le monde est imparfait et que nous pouvons être humbles dans ce que nous offrons, l'offrir gratuitement et laisser le monde se faire autour. Il se fait comme il se fait. On ne va jamais avoir tout le monde qui nous aime. On ne va jamais avoir tout le monde qui nous trouve génial. Mais où est le problème? Nous ne sommes ni géniaux, ni nuls. Et puis, il y a les deux aspects que sont la soif de non-existence, ou plutôt la soif d'existence et la soif de non-existence. La soif d'existence. J'aime exister, je prends ma place. C'est juste drôle que les autres ne voient pas comme je suis géniale. Alors, pourquoi lâcher prise de cette soif d'existence? Est-ce que ce n'est pas une impulsion parfaitement naturelle et défendable? Est-ce que ce n'est pas un droit que nous avons? C'est en tout cas pas un droit que nous avons. Nous pouvons croire que nous l'avons. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que nous pouvons mettre nos œufs, tous nos œufs, dans ce panier-là? C'est Ajahn Sumedho qui disait « Sur cette terre, nous n'avons aucun droit ». Dans nos pays démocratiques et nantis, nous avons établi des droits. C'est vrai, ici il y a certains droits. On a construit des droits et des devoirs pour nous, mais qu'en est-il du reste du monde? Quels sont les droits des gens dans les tyrannies, dans les pays où les gens souffrent de la faim? Qu'est-ce que c'est que ces droits qu'on a mis en place et auxquels nous croyons? Moi, j'ai été enseignante spécialisée. Les droits de l'enfant, il y a toute une page avec les droits de l'enfant. Oui, c'est une jolie idée, mais le réel, c'est que les seuls droits que nous ayons, c'est les droits éthiques, ce sont les droits éthiques. Nous avons le droit de ne pas tuer, le droit de ne pas voler, le droit de ne pas mentir, le droit d'être généreux, le droit d'ouvrir nos cœurs. Ça, c'est un droit que nous pouvons prendre et la méditation nous aide à prendre ce droit. Mais autrement, la nature fondamentale du monde, c'est une nature conditionnée et impermanente. Il n'y a pas de droit définitif. C'est un aveuglement fondamental de croire que nous avons des droits et quand ces droits ne sont pas... conforme quand on prend nos droits, ok, nous pouvons lutter politiquement, mais comment nous luttons est très important. C'est vrai que nous allons vivre dans ce monde, donc c'est bien de défendre une démocratie, mais si nous la défendons sans savoir que tout est subjectif et que ça n'est pas l'ultime que nous défendons, c'est seulement ce que nous arrangeons devant notre porte, comme quand on organise une retraite, on l'organise au mieux. Si nous oublions ça, alors nous allons simplement vouloir mettre en place la démocratie et créer du conflit. La soif de non-existence. La soif de non-existence, c'est la peur d'être vu. C'est la peur de prendre sa place, c'est se faire petit. Et les religions institutionnelles, dans le christianisme, dans l'islam, dans le bouddhisme, je connais moins bien, ont une assez bonne part dans cette soif de non-existence. Parce que apprendre à obéir aveuglément, sans amour, ça nous rend, ça nous met dans la non-confiance. J'avais fait une retraite avec Godwin, c'est un enseignant sri-lankais qui enseignait aux occidentaux et aux orientaux. C'était intéressant, il disait, pour les orientaux, c'est une religion de la honte. Si le groupe absout la personne, il n'y a pas de problème. Elle aura tué père et mère. Si le groupe dit c'est bon, c'est bon. Alors que les occidentaux, ils n'ont rien fait, mais ils sont culpabilisés à mort, ils ont des problèmes partout. cette non-existence qui fait que y a une tristesse d'une certaine manière, qu'il n'y a pas forcément chez les peuples primordiaux. Et en retraite, nous pouvons sentir cette soif. Et c'est bon de mettre des mots comme la soif. Parce que, en général, quand quelque chose arrive de cette soif, par exemple, je suis dans l'impatience ou l'attente ou j'aimerais être ailleurs, je rêve de sortir de retraite, ou c'est mon problème, j'arrive pas à être là. Non, c'est simplement cette soif qui est là. Donc, ce que nous apprenons en retraite, c'est à sentir la soif, hein, le sens du temps qui est douloureux, pour peu à peu qu'advienne la fin du sens du temps. La fin du sens du temps, c'est bon, parce que la fin du sens du temps, c'est être ici et maintenant. Je vous lis quelque chose que j'ai retrouvé, que j'avais écrit dans une retraite. En fait, j'avais eu une attaque massive de non-existence. Puis bon, j'avais fait mon boulot, j'avais laissé être, j'avais attendu, je m'étais souvenu de tout ce qu'il faut se souvenir pour pouvoir passer à travers le trou de l'aiguille. Et puis après, j'ai écrit comment c'était quand c'était plus là. Et puis après, je me suis dit, bon, mais ce serait quand même intéressant d'écrire comment c'était quand c'était là. Alors, je vous lis d'abord comment c'était quand c'était là, mais c'est ce que j'ai écrit après. Mon cœur se serre, j'ai peur de mourir, j'ai peur de ne pas exister. Mon cœur est tout ouvert, je n'ai pas peur de mourir ou de ne pas exister, je suis là. Ensuite, ce qui venait, c'était « Pour exister, je dois être la meilleure, je meurs si je ne suis pas parfaite. Je n'ai pas besoin de me comparer, je suis ok comme je suis. » Je suis tellement nulle que j'ai meilleur temps de rester seule. J'aime partager, car les différences sont une richesse. Je n'ai pas besoin de protéger quoi que ce soit en moi, car je suis. Les autres sont tellement mieux que moi, je ne fais vraiment pas le poids. Je suis heureuse que les autres fassent bien, ça ne veut pas dire que je fais mal. Toi et moi, nous pouvons exister côte à côte. Tu n'es ni meilleur ni moins bien que moi, nous sommes différents et c'est bon. Être dans cette soif de non-existence et en sortir. C'est pas grand-chose, hein? C'est pas grand-chose. Mais quand même, ça fait du bien quand on peut vivre l'un et l'autre. Parce que naturellement, le choix du cœur va pas vers la non-existence quand ça a été conscientisé. La troisième vérité, c'est la libération. L'éveil, le nirvana. Le samsara, c'est l'esprit tourné vers l'extérieur, perdu dans ses projections, ses pensées, ses désirs, ses émotions. Le nirvana, c'est l'esprit tourné vers l'intérieur, qui reconnaît sa vraie nature. Donc, lorsque nous nous tournons vers l'intérieur, nous pouvons expérimenter l'arrêt de cette complexité de la personnalité. Quand on a demandé au Bouddha ce qu'il avait gagné par la méditation, il a dit « Je n'ai absolument rien gagné, mais je sais ce que j'ai perdu. J'ai perdu la peine, la colère, les lamentations, la peur, voilà ce que j'ai perdu. » Lorsque cette soif de non-existence s'arrête, c'est naturellement quelque chose d'autre qui est. Donc, avec la libération, il y a une forme de liberté du moi. Le moi peut jouer la vie plutôt que la vie soit un perpétuel enjeu. L'instant semble en général assez. C'est rare que l'instant doive être autrement. Le refuge n'est plus dans le monde conditionné. Il n'y a plus de croyance que si je change là, enfin. Ou même si je change là. Ok, là c'est pas trop bien. Eh ben tu ouvres. C'est le chemin. Quelquefois il y a le fruit, quelquefois il y a le chemin. C'est le souvenir de la présence. Et aussi le souvenir du but dans le sens de ce refuge. Je peux toujours prendre refuge dans le Bouddha Dharma Sangha. Et quand ça ne va plus bien dans ce monde, plutôt que de me tourner vers lui pour essayer de faire, je ne sais pas quoi, de nager un petit peu plus loin, je prends refuge. Le monde s'installe à sa façon. Cet autre monde, ça ne veut pas dire que c'est un monde d'extase perpétuelle. C'est ce monde. C'est ce monde, mais il est tenu autrement. Il est tenu de la bonne façon. La forme, c'est la vacuité. La vacuité, c'est la forme. Les conditions, c'est l'ultime. L'ultime, ce sont les conditions. Il n'y a pas l'un sans l'autre, et il n'y a pas l'autre sans celui-là. Pourquoi je peux parler de l'ultime? C'est parce que j'ai un corps et une bouche. Et pourquoi l'ultime peut me parler, c'est parce qu'il est là et que je suis là. C'est quelque chose qui est complètement interconnecté. Mais c'est rien de spécial. Et c'est inutile de vouloir avoir une expérience spirituelle. Nous ne pouvons pas avoir une expérience spirituelle. Elle peut se produire. Puis après c'est fini. C'est Suzuki Roshi qui dit l'éveil ou bien une expérience d'éveil. Avant c'est quelque chose de merveilleux, après c'est rien de spécial. Parce que ce que nous avons vraiment, c'est ça, là, maintenant, en chacun d'entre nous. Rien d'autre.
Qu'est-ce que tu appelles l'ultime ?
Ce qu'on ne peut pas nommer. L'ultime, le un, Dieu, le nirvana, l'éveil, le non-né, le non-mort, l'inconnu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui vous vient d'autre pour l'ultime? La source, l'inconditionné.
La non-dualité.
La non-dualité, le un. Quoi d'autre?
Le tout autre.
Le tout autre.
Mystère,
il y en a encore. Ça va aider Gabriel.
La vérité.
Ouais, la vérité. Voilà, c'est quelque chose qu'il est impossible de nommer parce qu'au moment où tu le nommes, tu enlèves son 1. Donc, on pourrait dire que la libération, c'est une forme de pauvreté. C'est Christian Jolien qui a écrit ce bouquin qui s'appelle « Éloge de la faiblesse ». Ça n'est pas quelque chose que j'acquiers, c'est une pauvreté. C'est quelque chose que je vide, c'est une humilité qui s'ouvre et qui est tellement bonne. C'est Maître Eckhart qui dit... qui parle des trois pauvretés spirituelles. La pauvreté du vouloir, la pauvreté du savoir et la pauvreté de l'avoir. Est un homme pauvre celui qui ne veut rien, qui ne sait rien et qui n'a rien. Ça ne veut pas dire que c'est un SDF et puis que c'est un imbécile et puis que... mais... c'est vraiment cette conscience de la limite du samsara, la limite du monde conditionné. Et ça, c'est une immense liberté, parce que on peut mettre le corps en prison, mais on ne peut pas mettre l'esprit en prison.
En fait, les enseignements sont un savoir.
Oui, c'est un savoir, mais c'est un savoir qui connaît la vanité de la chose. Si ce savoir n'a pas cette qualité de connaissance, donc c'est pas un savoir intellectuel. C'est Ajahn Suchito qui dit « En fait, on pourrait résumer l'entraînement d'une pratique spirituelle comme la transformation de nos désirs égoïstes en désirs désintéressés. Le désir qui agit comme motivation pour nous pousser à découvrir les choses telles qu'elles sont, au-delà de notre soif instinctive de gratification ou de réussite. Ce désir est une juste énergie pour nous permettre de traverser les épreuves qui jalonnent le chemin. D'une certaine manière, tous nos désirs sont des sublimations de notre soif de libération. » Nous cherchons à la mauvaise place ce que nous voulons vraiment. C'est le 1, c'est la libération, c'est la fin du désir. Et dans cette quête intérieure, ce qui est intéressant, c'est que la première vérité, la souffrance, devient de plus en plus visible. Et c'est bien. Parce que, je ne sais plus qui disait, quand l'égoïsme fait vraiment mal, alors le chemin est facile. Nous voyons tous les moments où nous manquons la cible. Nous voyons tous les moments d'attachement, d'indifférence, de mise à distance, de colère. Ce n'est pas forcément très agréable. Mais ça permet d'aller plus loin. Ça permet d'apprendre, ça permet de grandir. Et ça permet d'aller vers la générosité et l'altruisme, qui est, d'une certaine manière, le but du chemin, parce que c'est la conséquence d'un cœur qui est libre des émotions perturbatrices et des pensées obsessionnelles.